La robe de la reine sera une communication à deux voix. Donc je vais commencer pour vous parler de l'objet et Baptiste prendra ensuite la suite de la communication. Donc l'objet, dit la robe de la reine, est une œuvre orpheline dans le sens où le nom de l'auteur a été longtemps supposé inconnu. Nous reprenons avec d'autres, dont des collègues de la CEREP, la recherche autour de cet objet entreprise par Agnès Berthomeu, présidente de la CEREP de 2004 jusqu'à son décès en 2016, en y adjoignant le regard d'un historien de l'art, Baptiste Brun. La CEREP, Société d'études et de recherches historiques en psychiatrie, a été fondée en 1986 par des infirmiers regroupés autour d'André Roumieux au sein de l'hôpital psychiatrique de Villiers-Évrard. Le but de l'association est de collecter, sauvegarder et mettre en valeur tout document, objet ou témoignage se rapportant à l'histoire de la psychiatrie. C'est ainsi que des expositions se sont mises en place dans le musée de la CEREP, cet ancien vestiaire central de l'asile, là où les patients y déposaient leurs vêtements civils au moment de leur admission. Dans ce lieu, proche d'un cabinet de curiosité, se côtoient des objets en tout genre, en provenance d'hôpitaux psychiatriques, mais principalement ceux de Villévrard et Maison-Blanche, séparés l'un de l'autre par une nationale, sur le territoire de Neuilly-sur-Marne, en proche banlieue parisienne. La robe de la reine fait office de figure de proue du musée. L'auteur de la robe, Marie de son vrai prénom, V de son nom, de l'initial de son nom, née en 1901, est admise en placement volontaire à l'hôpital de Maison-Blanche en juillet 1937 pour état d'agitation. Elle est âgée de 36 ans. Nous ne savons que peu de choses sur ses antécédents, sinon les quelques éléments fournis par son mari. Concernant son internement, qui va durer 52 ans, les seules traces dont nous disposons sont celles contenues dans son dossier. S'ajoutent toutefois, après son décès, les témoignages de celles qui ont connu la patiente ou du moins participé à la sauvegarde de la robe. Mais les souvenirs sont anciens, parfois se bousculent, voire se contredisent. Il reste encore beaucoup d'interrogations. Avec la consultation du dossier, nous apprenons que 2 ans après son admission, elle porte déjà un costume spécial qu'elle tricote elle-même, comme le souligne son médecin, le docteur Henri Baudouin, dont vient parler Lise. Au fil de son hospitalisation, Marie va se confectionner et perfectionner un vêtement royal auquel elle y ajoute des colifichets. Il est très souvent fait mention d'une robe et d'une couronne, dénommée coiffe après le décès de la patiente, toutes deux conservées à la CEREP. On y parle aussi d'autres attributs, qualifiés parfois de fantaisistes, mais qui ont hélas disparu. Des jupes, des jupons, une cape royale, un sac de laine, un diadème, des bijoux dits de pacotille, et aussi, précise André Roumieux, une aumônière décorée de nombreuses médailles, comme étaient ses chaussures. On ne sait si elle se paraît de la totalité de ses attributs, mais il est noté qu'elle en porte certains pour son travail à la lingerie, pour se rendre à la messe le dimanche, et plus tard lors de sorties avec les infirmières au marché de Chelles. Pardon. Cette parure, assortie de ses accessoires, tout en la singularisant des autres malades, va lui permettre de conforter, voire de légitimer l'identité de reine qu'elle s'est forgée. Elle sera tout à la fois épouse et reine de France, d'Europe, d'Angleterre, mais aussi mère, elle qui n'a pas eu d'enfant, allant même jusqu'à se créer une cour royale, décernant des titres à certains malades. Elle va ainsi imposer son statut royal au personnel soignant et aux pensionnaires. Elle tolérera mal ceux qui ne la respectent pas, ce qui lui vaudra à plusieurs reprises des séjours au pavillon des agités. Ce n'est que vers 66 ans qu'elle se débarrasse de sa couronne parce que trop lourde, dit-elle. Elle pèse en effet 1,4 kg. Elle ne revêt plus ses vêtements royaux ni son diadème, mais elle montre cependant si on insiste beaucoup. Toujours coquette, elle semble avoir néanmoins toujours gardé ses bijoux. On sait que parallèlement à la réalisation de son travail personnel de couture, broderie et de tricot, elle sera affectée à la lingerie, travail pour lequel elle percevra un pécule. Elle participe au tri du linge dont elle veut le monopole, elle le compte sale et le vérifie propre. Elle s'acquitte à merveille de cette tâche, pourtant ingrate, avec beaucoup de soin, les mains couvertes de bijoux et le cou paré de plusieurs chaînes dorées et colliers multicolores. Elle décède à 87 ans, le 8 août 1989, à l'hôpital de Maison-Blanche. Si de son vivant, la robe resta bien en sa possession, qu'en fut-il à son décès? Son décès va être scellé grâce à une requête de la patiente. Sans famille, du moins le croit-elle car elle n'a plus de visite depuis si longtemps, elle confie sa robe à une infirmière pour que celle-ci en prenne le plus grand soin après son décès. Cette robe est pour elle. Son vœu sera respecté grâce à une communauté de femmes, des infirmières pour la plupart, mais aussi des lingères. La robe va ainsi transiter de la lingerie au bureau du médecin-chef du pavillon dans lequel la patiente fut hospitalisée. En 1996, Madame Garnier, directrice de l'EFSI, Théodore Simon, qui est l'Institut de formation en soins infirmiers de Maison-Blanche, organise une exposition pour fêter le cinquantenaire de l'école. Elle est à la recherche de documents et apprend l'existence de cette robe. Celle-ci, alors empruntée par un médecin, sera retrouvée par une infirmière, puis exposée. Dans le journal du cinquantenaire de l'EFSI, on peut découvrir une photographie de la robe et un texte « Histoire de la robe de la reine », où figurent notamment des éléments biographiques et médicaux de l'auteur, dont son prénom Marie et l'initiale de son nom V. À la suite de cette manifestation, la robe restera dans le bureau de Madame Garnier, bien en vue mais protégée. La robe sera alors admirée, photographiée et convoitée par certains de ceux qui entraient dans le bureau. En 1998, on trouve trace d'un courrier sur une demande de renseignement de la robe émanant du musée d'art moderne de Villeneuve-d'Ascq. Il n'a pas été donné suite à ce courrier. Une année plus tard, en 1999, Mme Garnier, prenant alors conscience de l'intérêt que suscite cette robe, cherche un lieu pour la déposer. Après plusieurs choix envisagés et en accord avec le médecin-chef et le directeur de Maison de Blanche, elle s'adresse à la CEREP qu'elle connaît bien. Choix justifié aussi de par la proximité géographique et des liens tissés entre professionnels de Maison Blanche et Vélévrard, des infirmiers notamment. Gilbert Léon, en charge de la CEREP, transmet une demande officielle de dépôt auprès du directeur. Celui-ci répond favorablement, toutefois il précise « Cette pièce restera la propriété de l'établissement, donc de Maison Blanche, qui se réserve le droit, en cas de besoin, de réclamer sa restitution à tout moment. » C'est ainsi que la robe de la reine va être conservée dans un hôpital psychiatrique, ce qui ne fut pas le cas pour certains ouvrages similaires. La robe n'est sortie de l'institution où elle fut créée que pour traverser une route, la menant d'un hôpital psychiatrique à une autre. Depuis, la robe et sa coiffe, exposées sous vitrine et en sécurité dans le musée, s'impose avec force aux visiteurs. C'est la même année, en 1999, que la robe figure dans le livre de Madeleine Lommel, « La racine et l'art brut », consacré à la collection qu'elle a fondée en 1982 avec Michel Nedjar et Claire Teller. Dans le chapitre « La création féminin », on y voit sur une double page les photographies couleur de quatre robes. La robe de la reine est en bonne compagnie, c'est celle qui est au milieu. Elle est en bonne compagnie aux côtés de celle de Madgil, Marguerite Cyr, Marguerite Cyrma, et la robe de Bonneval. La légende de la robe précise, anonyme vers 1970, robe brodée laine et coton, Yves-Cy Théodore Simon, Neuilly-sur-Marne. En 2007, Madame Garnier reçoit de Lucienne Perry, alors directrice de la collection de l'art brut de Lausanne, une demande de prêt de la robe pour y figurer dans l'exposition qu'elle prépare autour des textiles dans l'art brut et qu'elle a intitulée « L'envers et l'endroit », demande transmise à la CEREP. Dans le document relatif au prêt émanant du ministère de la Culture et de la collection de l'art brut, il est indiqué entre autres que la robe est rattachée à l'art brut et qu'elle pèse 4 kg. La robe, sans sa coiffe, partit à Lausanne, puis retrouva sa place dans le musée. C'est sans doute à la suite de cette exposition qu'Agnès Berthomieu écrivit une notice que l'on peut lire encore à l'usage des visiteurs, où il est inscrit « Robe de la reine, robe et coiffe brodée et ornée, anonyme, surnommée la reine ». Durant de nombreuses années, la recherche de l'identité de l'auteur de la reine, de la robe, ne semble pas avoir été la priorité de ceux qui l'avaient recueillie, pourtant avec passion. Sans doute le fait d'avoir sauvé ce trésor de guerre était-il suffisant à leurs yeux. En 2012, Agnès Berthomieu découvre à son tour l'identité de l'auteur grâce à deux ouvriers de l'hôpital de Maison-Blanche venus au musée. En consultant le dossier toujours en place dans les archives de l'hôpital de Maison-Blanche, deux photographies d'identité de Marie, à des âges différents. L'une la représente avec sa coiffe, celle que l'on voit là, l'autre photographie où elle semble plus âgée, avec simplement son fichu. La coiffe a disparu, mais reste l'écolier. Notons que devant l'intérêt suscité par les diverses consultations de ce dossier, l'archiviste de Maison-Blanche nous a assuré de son classement dans les archives départementales, ce qui devrait le préserver de la destruction. Il ne nous reste plus qu'à poursuivre la recherche sur cet objet et son auteur, recherche devenue une véritable enquête, forcément émouvante. Ainsi, avec la publication prochaine de son nom, se trouveront levés l'oubli et l'anonymat dans lequel l'internement avait plongé cette femme. Sachant malgré tout que l'oubli est toujours à l'œuvre, avec la disparition programmée des pavillons de Maison-Blanche et le déménagement probable du musée de la CEREP. Ici, c'est le pavillon des agités actuellement.
Alors, bonjour. Lorsque Bernadette Chevillon me contacte il y a bientôt un an et demi pour que nous puissions travailler sur la robe de la reine, C'est en partie parce que la CEREP s'inquiète du devenir de cet objet en instance, dont le statut reste éminemment flou. Alors, on remarquera d'ailleurs qu'une psychologue clinicienne contacte un historien de l'art et qu'on voit aussi que ces objets en appellent justement à des formes de partage d'expériences importantes qui ont été citées en début de colloque. Le travail initié par Madame Garnier, puis Agnès Berthomeau, repris et approfondi par Bernadette Chevillon, engage à faire quelques remarques qui, nous l'espérons, nourriront la réflexion de ce colloque. Plus avant, je concentrerai l'attention sur ce qui concerne la levée de l'anonymat. On comprend le scrupule qui consiste à le préserver, cet anonymat, comme le fit Agnès Berthomeu, en publiant la notice toujours présente à la CEREP, hein, je recite ce qu'a dit Bernadette, anonyme, surnommée la reine. Mais il semble que l'abus de langage, l'anonyme c'est celui qui n'a pas de nom, or qui n'a pas de nom, fait courir le risque de l'oubli, oubli d'un savoir, oubli d'un contexte, oubli de certains usages, notamment des usages qui sont neutralisés par le fait que ces objets sont artifiés, comme on a tendance à le dire, et rendus au monde de l'art, ou donnés au monde de l'art, eh bien on en oublie finalement aussi la question du parcours de ces objets, de leurs usages, de leur contexte de création, etc. Du point de vue de la pratique historienne, et en particulier de l'histoire de l'art, en prise avec la question de la singularité telle qu'elle est posée dans le champ de l'art brut et de ses apparentés, l'anonymat est à combattre lorsque le temps a passé. Du moins, c'est une position que nous défendrons ici. Plus généralement, je crois que l'un des apports forts de l'art brut, entendu ici comme pensée défendue par Dubuffet, consiste justement à restituer le nom, parce qu'il y a dans l'art brut, selon Dubuffet, quelque chose qui relève d'une politique du sujet, d'où sa volonté courante à l'artiste de lever cet anonymat dans l'usage psychiatrique. Alors, si je ne dis pas de bêtises, je me mets sous le contrôle de Savine et de Christophe, mais ici, Dubuffet a travaillé en sens autour, par exemple, de Gaston Dufour à Saint-André-les-Lilles. Pour lui, là où le nom réapparaît, c'est quelque chose de l'exclusion de la folie qui vole en éclats, et la possibilité de faire retour, via l'art, à la communauté des humains. Et quoi ? Marie est peut-être reine, mais elle ne se nomme pas reine, à contrario de ce que pensaient pendant un temps les personnels de l'hôpital qui avaient perdu son prénom et qui pensaient que son vrai prénom était reine, alors que reine s'appelle Marie. Avec Bernadette, l'on s'interroge sur les effets de cette levée de l'anonymat. N'est-ce pas finalement la condition sine qua non du soin que l'on peut porter à ces objets et à la mémoire dont ils sont porteurs, et notamment la mémoire de leurs auteurs ? La réflexion rejoint là celle mise en branle dans le monde des collections d'ethnographie coloniale, notamment sur la question des restitutions, dont le rapport de Felwinser et de Bénédicte Savoie a marqué l'apex, en quelque sorte, en novembre dernier, en appuyant ici une dimension extrêmement polémique au travers d'un sujet tout politique. Un travail patient, dépassionné, et en somme, peut-être, il s'agirait de définir une forme de responsabilité dans ce travail, peut se faire jour dans une collaboration large, à la croisée des disciplines, en évitant à coup sûr la précipitation. Et ça, je crois que c'est un point important aussi, que l'enquête historique que nous a donné à entendre ici Bernadette Chevillon s'inscrit dans une temporalité longue, sans précipiter les choses. Hors de la précipitation, et on a décidé d'ailleurs pour l'instant de non pas de totalement lever cet anonymat, mais d'en discuter éventuellement avec vous aujourd'hui. Une méthodologie pourrait être mise en place pour que ce type de levée d'anonymat ne se fasse pas sans garde-fou, conscient des enjeux qui relèvent des questions de droit qui ont été discutées aujourd'hui, droit d'auteur, droit patrimonial, des risques importants que fait peser aujourd'hui la cupidité du marché et d'un certain collectionnisme par rapport à ce type d'objet, et bien sûr la responsabilité publique face à la question de la mémoire des personnes dont ces objets sont en quelque sorte les dépositaires, hein, les hôpitaux, les universités, les collections muséales, les fonds d'archives et autres, avec d'emblée cette affaire, je relais un petit peu la pensée de Bénédicte Savoie, non pas dans le rapport Felwinser-Bénédicte Savoie, mais dans un travail préalable qu'elle avait fait à cette question des restitutions, de s'inscrire dans des temporalités longues en écrivant la biographie de ces objets pour aller, je dirais, au plus sûr dans ces différentes étapes de ce parcours de vie de ces objets, comme l'est celui de la robe de la reine. Je ne vais peut-être pas m'étendre avant de me faire couper la tête.
Je suis présidente et non reine. Je rappelle quelques principes démocratiques qui font que je rappelle juste le partage équitable du temps de parole, mais je ne pratique pas la guillotine comme du temps justement des reines.
Me voilà rassurée. Merci de votre attention.